voudrais vous raconter l'histoire de la répétition, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un jeune homme qui fuit la répétition. Sa vie, il la voudrait faite sans cesse d'une création d'imprévisibles nouveautés. Il a entendu ces mots de Bergson, une création continue d'imprévisibles nouveautés, et il en a fait son mantra, sa philosophie de vie, son épitaphe peut-être même. Il veut de l'intensité tout le temps, de la découverte et de l'émerveillement. Il déteste quand ça se répète, les matins pareils aux autres matins, l'habitude morne qui endort, et toujours le même mois d'août sur la même bande de sable. Pourquoi ne pas mourir tout de suite, se dit-il, si c'est pour vivre l'éternel retour du même en écoutant Claude François chanter comme d'habitude le morceau le plus triste de tous les temps. Il est bien jeune en effet, je sais ce que vous vous dites. Et c'est vrai, un jour, tout change. C'est d'abord avec une habitude érotique qu'il commence à porter un autre regard sur ce qui se répète. Il découvre que rejouer à peu près le même scénario érotique peut être très excitant, que l'habitude, dans ce cas, loin d'émousser la sensibilité, peut aussi l'éveiller, permettre un raffinement inédit de la délicatesse. Il découvre qu'il y a de bonnes répétitions, que c'est bon de retrouver toujours cette bande d'amis dans ce même petit bar, que c'est bon d'aller chez le psy tous les mardis à la même heure, à 16h45 précisément, de casser sa semaine d'agité avec ce petit rite, avec ce petit rythme. Il a comme un flash. Pendant toutes ces années, il a écouté Around the World des Daft Punk, de la musique répétitive qu'il mettait en transe, en joie même, sans comprendre qu'il peut y avoir une bonne répétition. Mais qu'est-ce qui distingue une bonne répétition d'une mauvaise répétition ? Qu'est-ce qui distingue la répétition qui fait du bien de celle qui fait du mal ? Qu'est-ce qui distingue l'habitude morne et mortifère de l'habitude délicieuse, jubilatoire ? L'habitude qui attriste de l'habitude qui console ? La bonne répétition est celle qui nourrit le désir, et peut-être aussi celle qui, d'une manière ou d'une autre, prépare le terrain pour l'événement qu'est la sortie de la répétition. On va toujours en vacances au même endroit, mais on s'y sent tellement bien qu'on y fait une rencontre nouvelle. On ne rate jamais sa séance chez le psy, mais c'est ainsi qu'on découvre quelque chose de nouveau. On commence par caresser l'autre toujours de la même façon, mais c'est son mystère alors qui surgit sous un jour nouveau. Pour en parler ce matin, de la bonne répétition et de la mauvaise, de nos habitudes, qu'elles soient tristes ou joyeuses, j'ai la joie de recevoir Pierre Lapointe, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Pierre Lapointe qui, dans l'indépassable chanson « Joie répétitive », nous dit si bien « Quand les doutes arrivent, la honte récidive, joie répétitive savent nous rassurer ». Pierre Lapointe, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour réfléchir avec nous à cette belle question « Qu'est-ce qu'une bonne répétition ?» De quelle nature est la répétition qui nous apporte de la joie ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Pierre Lapointe.
Bonjour.
Sympa d'être là, merci beaucoup.
Ah, ça fait super plaisir d'être là. Bon. J'ai toujours Ouais, je ressens toujours une joie, justement, répétitive à l'idée de venir à la maison de la radio, où j'ai quand même évolué pendant un été de temps.
Bah oui. Ouais. En tout cas, c'est là que beaucoup de Français vous ont découvert, avec ce titre, d'ailleurs, Joie répétitive, qui était dans la playlist pendant longtemps.
Ouais.
Et qui, justement, nous permet d'entrer dans le vif de notre sujet. Vous dites, vous chantez plutôt, quand les doutes arrivent, la honte récidive, joie répétitive savent nous rassurer. Je dois vous avouer, petit témoignage personnel, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a vraiment scotché. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien, quoi. Et ça m'a fait penser à la chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent.
Les gens qui doutent, ouais.
Quand la honte récidive, je me suis dit, quand même, c'est un peu violent, la honte, est-ce que vraiment c'est ça? Et ensuite, tout est fort, quoi. Joie répétitive, mais lesquelles savent nous rassurer. Vous pensez à quoi?
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se terre dans quelque chose de très de répétitif. C'est l'idée de se complaire dans quelque chose où on ne se met pas au défi. Et ouais. C'est bien aussi de pas se mettre au défi toujours. Maintenant, je sais que des périodes où on est très triste, où c'est très mouvementé point de vue émotion, on a besoin de se refaire la recette que notre maman nous faisait. On a besoin d'aller, mais on est dans une société aussi où il y a quelque chose d'assez honteux de dire qu'on va pas bien. Parce qu'on est beaucoup dans l'image. Bon, je pense beaucoup aux réseaux sociaux. C'est pas toute la planète qui est là-dessus, mais il y a quand même la majorité des gens qui sont là-dessus. Et puis, oui, il y a cette espèce de volonté de bien paraître. Et puis moi, ça fait des années que je dis que je décris de petits aveux de défaite.
Oui,
des petits moments où un humain se retrouve devant le miroir et où il accepte de se dire qu'il n'est pas aussi beau, pas aussi brillant et aussi fort qu'il voudrait l'être. Et pour moi, c'est assez exactement dans des moments comme ça où on devient beau, brillant et fort. Ouais.
Mais c'est pas, d'ailleurs, c'est pas nécessairement une petite défaite d'avoir besoin de retrouver un lieu commun, retrouver une recette.
Non, du tout. Mais j'aime bien me positionner avec un regard, je dirais, oui, un peu plus dur que celui que j'ai en réalité, surtout pour une chanson comme ça.
Alors, vous êtes très créatif, c'est pour ça que cette thématique est aussi intéressante. Vous partez un peu dans tous les sens, un peu comme un artiste total. On a un peu l'impression que, voilà, vous faites de la chanson pour faire de l'art vidéo, pour faire de l'art numérique, pour faire du scénario, pour faire des clips, et que c'est presque un chemin pour arriver à une forme d'art total. Donc c'est très, d'autant plus intéressant de faire l'apologie. Alors c'est cette chanson, Joie répétite, qui a le mieux marché en France. Mais au Québec, vous êtes très très connu, vous avez un grand succès, vous êtes jury de The Voice. Et donc c'est cette chanson-là qui a pris en France, donc c'est étonnant. Parce que finalement, elle montre pas tout à fait le même visage de vous que la plupart de vos œuvres.
Oui, mais je trouve ça assez surprenant en fait, parce que au Québec, le succès que j'ai est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Parce que je suis toujours arrivé avec des trucs, j'ai un pied dans l'art contemporain, mes amis, mon milieu, c'est des gens qui sont dans le milieu de l'art d'avant-garde. Et puis, malgré ça, je me suis retrouvé justement dans de la belle grosse soupe pop que j'aime beaucoup.
Et très jeune, en plus.
Et très jeune, j'ai eu du succès, oui, mon premier album est sorti à 24 ans, et ça a explosé tout de suite, alors que j'avais un produit qui n'était pas... Ouais. Pour vous donner une petite idée, le deuxième album que j'ai fait, La Forêt des Mal-Aimés, quand on l'a sorti, on a vendu 35 000 copies en une semaine et la seule personne qui avait fait ça à ce jour-là, c'était Céline Dion. Donc je me retrouvais avec des trucs complètement dingues.
Tout en étant une sorte de, je sais pas comment dire, d'intello surréaliste, d'analyste.
Oui, parce que mes inspirations, c'était Kurt Weill, c'était Bertolt Brecht, c'était Marcel Duchamp. Donc j'arrivais dans quelque chose de complètement...
Mais il y a eu un malentendu? Ou alors c'était une belle rencontre.
Ça a été une belle rencontre, je crois. Puis les gens, je pense qu'ils étaient amusés par ça. Puis je pense qu'ils ont senti, malgré tout le décorum, puis le côté visuel très fort, et puis mon jeu aussi sur scène, qui est très drôle, je pense qu'ils ont senti une certaine forme de sincérité. Maintenant, quand je viens à Paris, j'ai l'impression que le public qui me suit et le succès que j'ai est beaucoup plus en phase avec ce que j'offre comme produit.
C'est drôle, donc vous êtes bien là, vous venez chez vous.
Ça aide chez moi, parce que je vais toujours rester un Québécois à Paris, mais je me sens bien ici et je trouve ça extrêmement intéressant comme phénomène de dire, bon, là-bas, il n'y a pas tout le décorum, il n'y a pas l'espèce de machine pop que j'ai, dont j'ai bénéficié au Québec, et puis c'est drôle, c'est ce qui ressort. Je le vois quand je fais des concerts, que ce soit à la salle Playel ou à l'Olympia, les gens qui viennent me voir, c'est certains comédiens, certains metteurs en scène, drôle, certains réalisateurs, des designers de mode, des gens qui viennent, justement, qui sont plus en phase avec ma vie de tous les jours.
Comme dans ce duo avec Clara Luciani.
Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayez de se persuader que ce n'était pas si bon.
Alors Pierre Lapointe, bonne question. Qu'est-ce qu'on y peut ?
Rien. C'est une chose que j'aime beaucoup du métier que je fais, celui de chanteur, c'est que je... À force de faire de la scène et de vouloir tout contrôler sur scène, j'ai réalisé que bon, déjà, quand j'arrivais dans ma tête très très près, donc en ayant répété, en m'étant réchauffé et tout, une fois sur deux, je me pétais la gueule dans mes débuts. Mmh. Et à un moment donné, j'ai réalisé que même si je faisais rien avant, j'arrivais juste sur scène pas préparé, je me trompais une fois sur deux. Donc je me suis dit à un moment donné, pourquoi je me fais chier en fait ? Fais juste laisser la vie venir à toi. Et à un moment, avec les années, sur scène, je me prépare pas avant de rentrer sur scène, j'arrive, j'accueille le moment et les imprévus comme ils arrivent, et au final, je suis bon 9 fois sur 10, voire 9 fois et demi sur 10, et j'ai appliqué ça dans la vie aussi. Moi, j'ai pour mon dire que quand on fait quelque chose, quand on va vers quelque chose, c'est qu'on en a besoin. Et même si on se dit il faut pas, que ce soit très mauvais ou très bon, c'est qu'on a besoin d'y aller. Donc, l'espèce de réflexion à outrance, ouais, c'est plutôt de l'école de dire fonce, vas-y, essaie. Au pire, t'auras mal, au pire, t'auras de la peine, mais tu l'auras fait.
Ouais, vous vous préparez au fond à n'être jamais complètement prêt.
Ouais, exactement.
D'ailleurs, ce duo avec Clara Luciani, vous l'avez fait, cette chanson très belle. Hein. Bon, c'est aussi deux voix qui se rencontrent, mais je crois que vous l'avez fait très vite, d'ailleurs.
On l'a fait très rapidement. On s'est rencontrés il y a de ça, je crois, 5-6 ans, je sais plus, avant que son premier album sorte. Moi, j'avais entendu son mini EP. J'avais entendu la chanson Monstre d'amour. J'étais tombé à la renverse devant la beauté de cette chanson-là, et puis sa voix, et puis tout ce qu'elle est, en fait. Et je lui ai écrit, j'ai dit, j'aimerais bien te rencontrer. On le sait tout de suite, hein, si ça se peut ou ça se peut pas. Ouais. Juste dans la réponse, même par les réseaux sociaux, j'ai senti qu'elle était hyper enjouée, hyper disponible, hyper ouverte. Et puis on s'est rencontrés, on a ri, on a fait des blagues de pète en 30 secondes. Et puis j'ai fait, ça y est, on peut devenir des amis. On a essayé d'écrire la chanson, on a commencé. Je partais pas longtemps après pour Montréal, donc il y avait une matinée avant que je quitte en avion. Donc, je suis allé chez elle, dans l'appartement où elle habitait. Alban, son pianiste, était là. Il nous a accompagnés au piano. On a fait la chanson très, très rapidement. C'est vraiment 50-50. Hein. Ce que je chante, je l'écris. Ce qu'elle chante, elle l'écrit. Les refrains, on les a fait ensemble. Et il s'est passé quelque chose, sans même qu'on réfléchisse, dans le refrain. Spontanément, j'ai pris la voix en haut. Elle a pris la voix en bas.
C'est contrairement, ça aurait pu être l'inverse.
Normalement, dans les stéréotypes qu'on a, vocaux, homme-femme, c'est ce qu'on aurait fait. Et puis, on a eu ce réflexe-là, et ça donne quelque chose de très difficile à chanter. On l'a fait souvent ensemble sur scène. Et ça demande une espèce de rigueur qui fait que, avec la mélodie, moi, il y a quelque chose que je trouve très planant dans l'exercice de chanter cette mélodie-là avec elle.
Vous avez un point commun avec elle, c'est d'être, j'ai envie de dire, mais le prenez pas mal, un peu des rescapés d'une adolescence un peu difficile. Elle a beaucoup raconté dans les journaux français qu'elle avait été moquée pour sa grande taille, ouais, qu'elle avait été même un peu humiliée dans la cour de récré. Ouais. Vous, je crois aussi un petit peu, vous avez été...
Beaucoup, comme tout le monde qui est différent, en fait. Et puis moi, c'est le fait d'appartenir à la communauté LGBTQ, je pense que sans même le vouloir, les humains sont très sensibles. Je suis pas super efféminé, ça a marché socialement, j'aurais très bien pu m'en sortir. Mais je pense que j'avais plein de trucs qui me trahissaient, entre guillemets, et qui faisaient que j'étais très très facile à pointer du doigt. Et j'avais cette espèce de curiosité, cette espèce de liberté qui était déjà là très jeune. Et puis juste de vivre dans un monde hétéronormatif alors qu'on se reconnaît pas du tout là-dedans, on est, veut pas, confronté à toutes sortes de choses, à toutes sortes de phrases, à toutes sortes de... Ouais, de construction sociale, et puis... Mais sincèrement, avec le temps, je suis extrêmement content parce que ça nous oblige à avoir une certaine forme d'empathie, ne serait-ce que parce qu'on se projette facilement dans d'autres situations, dans d'autres vies. Et puis ça fait que je crois que si on utilise ça de belle manière pour faire pour grandir, je pense qu'on devient de très beaux et de très intéressants créateurs.
Bien sûr, encore faut-il qu'on y arrive.
Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés, pour détourner l'attention de nos sexes souillés. Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Quand les doutes arrivent, que la honte récidive, voix répétitive, ça veut nous rassurer. Mais du noir, du bleu pour barbouiller nos yeux, pour faire croire, même si c'est faux, qu'aujourd'hui on va mieux. On boit, on mange entre copains pour parler de nos habitudes, celles d'hier, celles de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre, essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé. Quand les doutes arrivent, la honte récidive, joie répétitive, ça veut nous rassurer. On embrasse tour à tour des garçons et des filles, car pour nous tout ce qui compte c'est de voir des yeux qui brillent. Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour. On accepte de ramper le regard effacé, la bouche qui veut vomir notre amour ravalé. On pense à cette fois parfaite où on a tout gâché, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives, ça veut nous rassurer. Joie répétitive, ça veut nous rassurer.
Évidemment, Pierre Lapointe, joie répétitive.
Ah, ça me fait drôle.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Pierre Lapointe. On vient d'écouter cette belle chanson, joie répétitive. Alors Pierre Lapointe, vous avez sorti récemment un album concept, L'heure mauve, qui est là pour accompagner les œuvres de Nicolas Parti. Et c'est un album où il n'y a que des reprises ou des réinterprétations de classiques.
Avec en réponse des nouvelles chansons. En fait, c'est une reprise pour une nouvelle chanson qui est née suite à, en réaction à cette reprise.
Voilà, et puis vous êtes ce soir, donc le 14 juillet, en concert en Francopholie.
Ouais, seul avec mon piano, parce que bon, avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup moins risqué en ce moment de voyager seul avec mon piano.
Donc, écoutez, quand on entend la chanson qu'on vient d'entendre, on se dit que c'est pas mal. Hein,
ah, c'est pas mal, oui, oui, oui. Et puis ça marche toujours, c'est comme ça que j'écris les chansons, et puis c'est toujours, ça me vend bien, oui.
Ouais. Alors revenons un peu sur votre chemin d'artiste. Vous avez fait une dizaine d'albums, vous avez 20 ans de carrière déjà, hein, malgré cette ère juvénile. Et vous racontez que votre premier choc musical est à l'âge de 5 ans, et c'est Michel Berger.
Si maman si, qui jouait à la télé, je crois que c'était sur TV5, un truc comme ça. Et j'ai été paralysé devant ma télévision. Je pense que on l'entend, quand j'écris des chansons, je pense que j'ai besoin d'exprimer une grande mélancolie. Et cette chanson de Si maman si, à cet âge-là, chantée par un homme comme ça, tout tendrement au piano, ça m'avait paralysé.
Ah oui ? Et vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé ?
Je me souviens que j'ai pas réentendu la chanson pendant des années, parce que chez nous, elle est pas très connue, cette chanson-là. Et je l'ai chantée, je l'ai entendue une fois, hein, et je l'ai chantée jusqu'à mes, je sais pas, 12 ans, jusqu'à ce que je la réentende 5-6 ans après. Et après ça, je suis tombé sur l'opéra rock Starmania. Je connaissais des chansons de Starmania, mais en 89, pour fêter le 10e anniversaire de Starmania, sur toutes les ondes télé, toutes les ondes radio en même temps, il y avait Starmania qui jouait. Et puis, c'était la version avec Martine Sinclair. Et puis, j'ai compris que les chansons que j'avais entendues depuis des années faisaient partie d'une comédie musicale. J'ai compris la collaboration entre Michel Berger et Luc Plamondon. J'avais pas encore compris que c'était Michel Berger qui avait écrit Si maman si. Mais je crois que j'ai commencé à me construire mélodiquement et aussi par le thème. Des phrases comme j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir.
Oui, parce que
c'est extraordinaire en fait. C'est
ça,
extraordinaire.
Il y a quelque chose dans votre quête qui est étrange parce que vous êtes à la fois très, on va dire, sophistiqué, Et en même temps, il y a une recherche de cette simplicité qu'on entend chez Michel Berger, ou je crois, dans ce qu'on va écouter maintenant, et qui est, je crois, d'après vous, la chanson « Inégalée ». Alors Pierre Lapointe, racontez-nous pourquoi cette chanson de Starmania, pour vous, c'est le Graal, c'est l'étalon, c'est le modèle.
Bah, c'est drôle parce que je la réécoute tout de suite après avoir entendu Nos Jours Répétitifs. Ça m'a fait très étrange de réécouter Nos Jours Répétitifs d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette version-là. J'ai fait cette chanson-là dans mon salon avec mon meilleur ami Erwan, mon grand ami que j'appelle mon frère qui habite Bruxelles, qui était sur le sofa couché pendant que je jouais dans le noir. On avait fait un petit mini-studio, on avait mis des micros partout. Donc ça me replonge là-dedans, ça me replonge aussi dans cette période-là où autour de moi, tous mes amis avaient des histoires d'amour très compliquées. Et puis, ben, je leur ai volé des petits bouts de leur histoire pour mettre dans Nos Jours Répétitifs. Mais il y a énormément de liens à faire avec Les Uns contre les Autres. Cette espèce de sentiment de solitude, cette espèce de mélancolie réconfortante aussi. Puis même dans la façon de jouer du piano, il y a des similarités, des similitudes faciles à faire. Donc, des liens. Je pense que fondamentalement l'humain sait qu'il n'est pas éternel, et fondamentalement l'humain sait qu'il est seul, et jusque à sa mort, je pense qu'on tente de d'étourdir ça avec tout, avec rien, avec justement des joies répétitives, avec de l'alcool, avec la fête, avec l'amitié, avec l'amour. Mais je vais plomber un peu l'ambiance du 14 juillet là, mais je sais que pertinemment, on sait tous qu'on est seul. Même si on a la plus grande famille, même si on a les plus belles personnes autour de nous, on est fondamentalement seul. Et cette chanson-là de Michel Berger et de Luc Plamondon, je trouve qu'elle exprime extrêmement bien cette idée-là. Et puis en plus, chantée par Fabienne Thibault avec Claude Dubois en arrière qui fait des voix, c'est juste fabuleux en fait. Chantée par un cœur d'humain aussi qui répète les phrases. Je trouve que tout là-dedans est parfait.
Les uns contre les autres, ça me fait penser à la... Vous connaissez la métaphore des porcs épics de Schopenhauer ?
Non.
Alors c'est assez joli, c'est l'histoire de porcs épics qui sont seuls et qui sont isolés, parce qu'en fait ils supportent pas trop, mais en fait ils ont froid, donc ils vont se réchauffer, et quand ils se rapprochent, ils se piquent. Du coup ils sont trop proches, du coup ils s'éloignent, et puis quand ils sont trop loin, ils se sentent isolés, puis ils se rapprochent, quand ils sont trop proches, ils se piquent, et après ils s'éloignent, ils se sentent isolés, et c'est une métaphore de la condition humaine.
Oui. Mais en même temps, je veux rassurer les gens. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, j'ai trouvé des gens, même si ce sont des porcs épiques, j'aime bien m'accrocher à eux, me coller à eux.
Frotter.
J'aime bien qu'ils viennent se frotter à moi aussi. Bon, l'image. Mais bon. Et puis, il y a quelque chose d'important. Moi, j'ai aucunement évacué les humains autour de moi. Maintenant, il y a ce sentiment de solitude qui a toujours été là et qui va toujours être là. Quand j'étais enfant, j'étais très, très traumatisé par ça, par cette conscience.
On entend, en fait, dans votre façon de travailler, dans vos goûts, cette notion de solitude, mais aussi la résonance, en fait, d'un appel de la relation, un appel des liens, même s'ils sont partiellement impossibles, puisqu'on restera seul, on a quand même envie d'être ensemble. Et je crois que quand vous êtes tombé sur ce morceau qu'on va écouter maintenant, à l'âge de 15 ans, ça a fait résonner exactement ça.
Thank you.
Portishead, un morceau dingue, complètement hypnotique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé au concert, je crois, à l'âge de 15 ans.
Je suis allé au concert, il avait fait une tournée nord-américaine. Il s'était arrêté à Ottawa, tout près de là où j'habitais, à Gatineau, à l'époque. Et ma meilleure amie, Jeannick et moi, on s'était acheté des billets. Il faut savoir que ça, c'était pas vraiment connu chez nous. Hein.
Ouais.
C'était le genre de groupe, nous on avait entendu parler de ça, Musique Plus, qui est l'équivalent de ce que pouvait être MTV, mais version québécoise. Ouais. Et on était allés, déjà on écoutait l'album sans arrêt, on est allés les voir dans un palais des congrès, dans une salle avec du tapis, hyper étrange, avec il y avait un DJ avec des projections à l'arrière, avec, vous savez, des trucs là, des années 60 avec de l'huile et puis des taches de couleurs projetées. Donc c'était très très, on était dans un autre truc, j'avais 15 ans, tout était nouveau, tout était beau, et puis je me rappelle de Bette Gibbons, la chanteuse qui demandait des cigarettes aux gens parce qu'on pouvait fumer à l'époque à l'intérieur. Et puis, elle fumait ses cigarettes compulsivement, chantant, le dos tout rond. Et ça reste pour moi un des grands moments de scène. Et je le savais à ce moment-là que j'étais en train de vivre un grand moment de l'histoire de la chanson, parce que c'est quand même un groupe qui a fait énormément avancer les choses. Et puis, ben, je savais pas du tout à l'époque que j'allais être chanteur, mais je pense que ça m'a marqué. Ça a dû laisser des traces quelque part dans mon travail.
Ouais, en fait, ce morceau, enfin cet album, Demi de Portishead, il a fait résonner la solitude de tout le monde,
ouais.
Mais ensemble, quoi.
Ouais, et il y a une belle, c'est une belle noirceur rassurante, en fait, cet album-là. Il fait énormément de bien et très très sombre. Mais c'est la chaleur aussi, c'est quelque chose d'un peu des enregistrements de jazz des années 50. La prise de son et le mix de cet album-là est magique. Je pense qu'au-delà des mélodies, au-delà de tout, je pense qu'il y a des trucs qu'on ressent qui ne sont pas faciles à nommer, mais qui sont de l'ordre, oui, de l'ambiance, plus que de la mélodie.
Et puis vous dites son, mais on a vraiment, c'est le cas d'école où du fait d'accueillir l'obscur, la lumière arrive quand même.
Complètement, complètement. Et je trouve ça, on a tout ça en nous, puis c'est pas pour rien que ça résonne comme ça, puis que ça a du succès, ce genre d'ambiance-là, c'est que ça appelle.
Alors vous qui êtes jury de The Voice...
J'ai été pendant 3 ans. The Voice revient là pour la première fois au Québec après 2 ans d'absence, mais j'ai été 3 saisons de suite coach à The Voice.
Oui, coach, pardon, puisque jury. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez à déceler? Qu'est-ce qui compte pour vous, pour l'oreille de Pierre Lapointe?
Ah c'est pas très difficile, hein, parce que on s'entend vite, les gens qui ont du talent, des gens qui en ont pas, ouais. Des gens qui ont du talent mais qui feront probablement jamais ça de leur vie, des gens qui ont pas de talent et qui tout à coup peuvent exploser, on finit par le savoir très très rapidement. Et puis, c'est un jeu, hein, c'est un jeu télévisé. Y a des carrières qui sont parfois lancées par ça, mais c'est assez rare.
Vous-même, très jeune, je crois à 18 ans, vous avez gagné un prix comme ça avec
une chanson. Mais c'était pas du tout un concours télévisuel. Hein. C'était un concours qui existe encore, c'est le Festival International de la Chanson de Granby, un petit peu plus tard, à 20 ans. Et puis c'est ça qui a lancé ma carrière, mais c'est vraiment dans la tradition des concours. Bon, y a les journalistes qui sont là, il y a les maisons de disques, il y a du public dans la salle, mais ça sort pas de cet espace-là. The Voice, on parle quand même d'un truc qui est... The Voice, il y a des éditions où j'étais là, par exemple, où on allait chercher presque 3 millions d'auditeurs, de téléspectateurs. Et là, on parle sur une population de 7,4 millions de personnes. Là. Donc, c'est énorme. C'était la plus grosse part de marché. C'était complètement fou. Donc, les gens qui se retrouvaient là à participer à cette émission-là se retrouvaient à être du jour au lendemain très, très connus. Bon, souvent très, très vite oubliés. C'est le
truc qui arrive avec ça. C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Et quelqu'un dont on voit qu'il pourrait faire une carrière, mais en fait, il n'a pas envie, donc vous ne le sélectionnez pas.
Ah non, mais même non, souvent on sélectionne, mais on voit vite qu'est-ce que ça peut donner. Il y a des gens qui ont des limites, il y a des gens qui le feront pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste que c'est pas le bon timing. C'est des interprètes souvent qui ont des voix extraordinaires, mais en ce moment la mode au Québec est pas du tout aux interprètes. C'était il y a 25 ans avec les Isabelle Boulay, avec Céline Garraud et compagnie, on aimait les interprètes. Aujourd'hui, on veut des auteurs-compositeurs, les maisons de disques veulent des auteurs-compositeurs qui peuvent signer pour avoir les droits d'auteur aussi, pour avoir tout un univers qui vient déjà fait, qui sont pas en train de fabriquer autour. Donc c'est il y a plein de raisons qui font qu'on voit. Il y en a aussi qui travaillent tout simplement pas assez. Parce que pour faire ce métier-là et que ça marche, il faut travailler comme un dingue, en fait. Il faut être un peu désaxé du travail pour arriver à faire ça.
Revenons à votre chemin, donc. Votre première chanson s'appelait Pépiphonie, donc cette chanson qui a été primée à 20 ans.
Oui.
Et il se trouve que c'est le nom de votre label aujourd'hui, de votre... C'est marrant.
Ouais, de ma compagnie, ouais. Ouais, puis j'ai même fait une chanson dernièrement sur mon dernier album, L'Heure Mauve, Pépiphonie. C'est la dernière chanson de l'album. J'ai décidé de reprendre ce titre. c'était une réponse à une chanson de Kurt Weill, Yukali. Et je me suis dit, bah, c'est un mot inventé, je réponds par un autre mot inventé qui parle de... Et puis, j'ai trouvé une définition à ce mot épiphanie. Pour moi, c'est si la mélancolie et la douleur étaient un animal, ce serait le cri de cet animal-là, la épiphanie.
Vous pouvez nous le faire, là ?
Non. Je peux pas parce que ça briserait la magie. Il faut laisser les gens aller chercher leur propre son, leur propre épiphanie à l'intérieur d'eux-mêmes.
Loin les barrières, je mets un coup de pied dedans. Mes poings se serrent, se serrent. Le fer cédera. On peut s'enfuir toutes les deux. On peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère? Dessus, faire le mur, ou le dire à haute voix. On peut s'enfuir toutes les deux, on peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère?
C'était Laura Cahen dans mon lit.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Pierre Lapointe et c'est passionnant. Pierre Lapointe, vous êtes ce soir en concert au Francopholis de La Rochelle, seul avec votre piano.
Oui, pour fêter votre fête nationale en fait, pour fêter l'anniversaire des Français.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la thématique de la répétition, qui est la thématique de notre émission. Est-ce que vous avez des exemples de moments dans votre vie où comme ça, la répétition, au fond, accueillie, parce que c'est un peu la thèse, prépare quelque chose et on a bien raison d'attendre, parce que ça va venir.
Oui, bah, juste, je pense, comme ça, spontanément, à l'apprentissage d'un instrument. Cette idée de répéter constamment le même truc pour qu'il devienne une forme d'automatisme, comme enfin quand on apprend à marcher, d'être obsédé par quelque chose. Il y a des portes qui s'ouvrent à force de répéter un truc. Et je le vis beaucoup en apprenant aussi des textes par cœur pour des chansons, pour des concerts ou pour des moments sur scène où j'ai fait un spectacle, entre autres, à un moment donné, où j'avais une heure de monologue à apprendre.
Oui.
Et cette idée de répéter, de répéter, de répéter, c'est magique à un moment donné quand tu finis par juste te laisser porter, être envahi par quelque chose que tu as mémorisé, mais qui finalement a l'air totalement naturel. Et c'est drôle, même quand j'apprenais le piano seul chez moi à la maison, à un moment donné, je jouais souvent la même chose. Spontanément, j'avais besoin de répéter. Puis il y a comme une porte qui s'ouvrait, puis il y a d'autres accords qui arrivaient, puis des accords de plus en plus complexes. C'est comme si le cerveau était organisé pour être prêt à accueillir, comme à l'échelle d'une vie, en fait. Il y a des expériences qu'on est prêt à recevoir à un moment donné dans notre vie. Si on les vit trop tôt, on passe notre vie après à se réparer de ça. Mais il y a quelque chose de très fascinant dans ce rythme-là.
D'ailleurs, c'est étonnant parce que je crois que dans votre adolescence, vous avez un rapport bizarre là, à cet apprentissage. Vous étiez très doué pour l'interprétation, mais vous n'arriviez pas avec le solfège et cet apprentissage-là.
J'étais dyslexique, je suis toujours, ça s'est calmé dans le sens où j'ai trouvé des trucs, des moyens pour passer par-dessus. Mais oui, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer aussi. Donc, d'un côté, j'avais des notes de quelqu'un qui était vraiment pas brillant.
Ouais.
Et de l'autre côté, les gens qui me voyaient jouer, qui m'entendaient, me donnaient une étiquette de petit surdoué, en fait. Donc, c'était très, très angoissant parce que autant je m'exprimais d'une façon anormalement mature pour mon âge, même enfant très jeune, autant je comprenais la musique d'une façon anormalement claire, autant quand on venait avec des éléments trop concrets, j'étais complètement...
Ou même trop d'explications, au fond.
J'étais incapable. C'était pour moi, particulièrement la musique et la parole et tout, c'était très physique et c'était senti.
Ouais, donc, un contact intuitif.
Ouais, quelqu'un qui me disait, il y a tant de croches dans ce que tu viens de jouer, je devenais, mais l'angoisse totale. Donc, j'ai passé l'adolescence en étant persuadé, profondément persuadé d'être absolument stupide. J'allais voir mes professeurs et je disais, j'ai un trouble, je suis déficient intellectuel, je vais peut-être devoir venir vous voir souvent pour vous demander plus d'explications. Puis ils disaient, mais attends, t'es probablement le plus brillant que j'ai vu depuis 15 ans passé là, de tous mes élèves, donc ta gueule. Donc ils me mettaient dans un coin, disant, lui, on n'a pas besoin de s'occuper de lui, il est très très brillant. Puis ils voyaient mes notes et ils comprenaient pas. Et c'est pas parce que je travaillais pas. Mes parents me payaient des profs privés, par exemple en mathématiques, et puis j'y arrivais pas. Et puis à un moment donné, je suis allé j'ai étudié en art plastique, je voulais devenir plasticien et acteur. Donc j'ai fait une école d'art plastique et après ça je suis rentré dans une école de théâtre assez renommée où il y avait des auditions, un vrai processus très compliqué pour rentrer. J'ai été accepté et du coup j'ai réalisé que finalement j'avais juste une façon de fonctionner qui n'était pas celle de la norme, mais que j'étais très brillant. Et ce jour-là, je me suis dit, oh là là, préparez-vous parce que je vais tout détruire. Je vais avancer tellement vite. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui va pouvoir me décourager et me faire croire en fait que je suis stupide parce que je rentre pas dans vos petites cases. Au contraire, et puis ça a fonctionné. J'ai tout fait exploser. À 23 ans, 24 ans, j'étais déjà très connu, très reconnu. Et puis j'avais l'impression de rattraper le temps perdu. Mais vous dire le nombre d'années que j'ai passé à pleurer, vraiment profondément à pleurer, en me trouvant horriblement con. C'est je ne souhaite ça à personne. En même temps, ça m'a construit tout un monde intérieur extraordinaire et très très fort, et puis ça m'a fait explorer des zones qui me nourrissent encore aujourd'hui.
Mais est-ce que vous avez eu dans ce moment où la célébrité est arrivée et la reconnaissance, le sentiment malgré tout d'une revanche, ou il n'y avait pas ça?
Oui, une revanche. Et en même temps, une dépression nerveuse totale parce que je ne comprenais plus l'agissement des gens autour de moi et je perdais tous mes repères et tout le monde me regardait avec des drôles de yeux. Ça a tellement bien marché, mon truc, que je me suis fait avoir et j'ai réalisé que finalement, c'était pas tant d'être connu que je voulais, mais plutôt juste de rééquilibrer les choses et puis surtout d'être moi à 150 000%. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de me mouler à des trucs qui me ressemblaient pas du tout, dû à la pression sociale, dû à la volonté de plaire et tout. Et puis je suis chanceux, j'ai fait cette prise de conscience-là, j'avais 23-24 ans. Mais s'en est suivi une grande dépression, oui, complètement.
La dépression en même temps que le succès?
Oui, et c'est souvent lié. Hein. Il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont vécu des grands succès très très instantanés, très bon. On dit instantané, mais il y a énormément de travail derrière. Les gens disaient, ouais, t'arrives de nulle part, c'est extraordinaire ce qui t'arrive. Puis je disais, non, mais ça fait déjà 4 ans que je fais des concerts et puis j'avais travaillé comme un dingue. Donc c'est un mélange de fatigue parce qu'on travaille trop, parce qu'on sent que c'est maintenant que ça se passe, donc il faut fournir. C'est un mélange de très intime notre intimité profonde, notre famille, nos amis, le lien qu'on a à la société. Et en plus, c'est un nouveau statut social. Je suis passé de... Ouais, parce que quand on devient connu au Québec comme ici, il y a quelque chose qui se passe. Là. Les gens sont attirés, même 20 ans après. J'ai, les gens agissent autrement avec moi dans les espaces sur la planète, puis ils ne sont pas si nombreux où je suis connu.
Dans le sport de haut niveau, on a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui font leur dépression au moment du Graal. C'est le cas d'André Agassi qui a raconté ça dans un magnifique livre qui s'appelle Open. Et du jour où il était numéro un mondial, il a commencé une grosse dépression.
Ouais.
Et en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, et puis un épuisement.
C'est trop de travail.
Qui fait que même quand la consécration arrive, on est juste épuisé. Ouais. Et comme en plus, il y a une perte de repères identitaires, ça peut faire une dépression.
Complètement. Et c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est étrange, hein, parce que même mes parents me regardaient autrement. Mes parents ont changé de statut social aussi. Quand ils sont arrivés au travail, ils n'étaient plus juste des simples travailleurs. Ils étaient les parents de Pierre Lapointe. Et là, eux, ils ressentaient une pression aussi. Puis mes parents ne sont pas du tout dans le milieu. Donc, il y avait une gestion extrêmement complexe à faire de tout bord, tout côté. Et puis, heureusement, j'avais mes amis qui, eux, n'étaient pas très impressionnés par tout ça, qui venaient souvent du milieu de l'art contemporain, de la danse, du théâtre. Donc, eux, ils étaient dans un truc plutôt amusés par tout ça. Et je m'en suis sauvé en me répétant que j'étais un artisan, en fait.
Ouais. Alors, dans tout ce que vous faites, qui est extrêmement riche et un peu disparate, vous vous intéressez beaucoup au design, à la mode, vous faites des tracteurs, à la vidéo. Souvent, au milieu de tout ça, vous faites des reprises. Et des reprises de classiques, notamment d'Aznavour ou de Joe Dassin. Et ce qui me surprend beaucoup.
J'ai fait ça il y a longtemps,
Et ce qui me surprend beaucoup, et on va en écouter une, on va écouter Dans les yeux d'Émilie, une chanson que j'adore. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que quand vous faites ça, on a l'impression que vous ne tentez pas, comme beaucoup d'autres, de le faire vraiment à votre manière. Vous vous mettez au service d'eux et presque vous chantez comme. On va écouter ça.
C'est vrai.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra?
Pierre Lapointe, c'est une vieillerie que j'ai exhumée comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est beau aussi de savoir presque un peu disparaître, quoi, en étant au service d'un classique. Il y a une joie aussi à disparaître.
Oui, et puis en fait, c'est toujours un peu difficile quand la version originale est tellement forte que c'est difficile de faire mieux, en fait. Pour cette chanson-là, on s'était questionné beaucoup, puis on avait rajouté des beats. Bon, là, on parle d'une chanson qui a 20 ans, voire un peu plus. Donc, c'est sûr qu'on est dans des sons électro qui sont en phase avec cette époque-là. Mais j'ai fait l'exercice sur leur Mauve. Il y a quand même 7 reprises sur cet album-là. Ouais. Et on est resté très, très proche des versions originales parce que, surtout dans le contexte muséal où on était lié à une exposition où il y a des œuvres d'une autre époque mélangées à celles de Nicolas Parti, un artiste que j'adore. On sentait pas le besoin de se décoller trop des versions originales. Donc,
c'est très beau d'ailleurs.
Et puis ça reste ma voix, ça reste moi qui chante. Hein, c'est pas...
Vous chantez parfois en allemand. Il y a aussi une jolie variation sur une Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie qu'on a écouté tout à l'heure.
Ouais, exactement. Donc des fois, c'est pas nécessaire d'aller chercher trop loin. Et puis ça reste une redécouverte quand même parce que c'est pas le même interprète qui chante. Et puis ça reste un jeu. On la modernise tout en restant très subtil.
Ouais, et puis en fait, il y a aussi cette idée de faire résonner le travail de l'autre.
Oui, complètement.
D'être dans une correspondance, comme ça, une caisse de résonance.
Maintenant, c'est très intéressant de prendre une chanson hyper connue et up-tempo et la faire piano-voix. Ça marche hyper bien. Quand la chanson est forte, ça marche tout le temps. Je le fais beaucoup. J'ai une émission sur les ondes d'ici musique qui s'appelle 2x2 Rassemblés, en lien à mon plus grand succès au Québec, où je reçois des invités pendant 1 heure et pendant 2 heures, et puis on joue à un ping-pong musical, et à la fin, on fait une reprise ensemble. Et puis, toutes les reprises qu'on fait, en fait, c'est fascinant de voir justement le travail bien fait et toujours agréable à entendre.
Malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main, tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
Alors Pierre Lapointe, ça c'est votre grand tube au Québec, mais pas seulement.
Ouais.
Dans l'album que vous sortez, que vous venez de sortir, L'heure mauve, il y a aussi une réflexion sur les saisons. Il y a un hymne à l'automne, un hymne au printemps, il y a une chanson sur l'hiver. C'était quoi l'idée de cette chronologie ?
C'est vraiment l'exposition de Nicolas Parti en fait. Nicolas est d'origine suisse, maintenant installé à New York depuis quelques années. Nicolas est très inspiré par les paysagistes suisses, ouais. Et au Canada, on a une grande tradition de paysagistes aussi. Et c'est drôle parce que en me moulant à son travail, en me collant à sa démarche, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va dans des grands musées et puis il met en relation son travail avec les collections des grands musées. Il le fait entre autres au musée Magritte à Bruxelles et là avec la collection du musée des Beaux-Arts à Montréal. J'ai réalisé que finalement, comme en chanson, au Canada, on a commencé à créer une identité canadienne en peinture, en peignant des paysages. C'est le groupe des Sept, en fait. Il y a un peu plus de 100 ans qui s'est mis à peindre le Canada et qui a fini par donner un début de semblant d'identité à ce qui se passait en peinture chez nous. Et en chanson, dans les années 60, on n'a qu'à penser à Félix Leclerc qui est arrivé dans les années 50, avant toute la grande vague d'auteurs-compositeurs des années 60, avec une description de la vie en passant par le paysage et la nature. Et après ça, dans les années 60, avec les boîtes à chansons, les Gilles Vigneault et compagnie, même Charlebois dans ses débuts, c'était beaucoup, beaucoup par la description du paysage. C'est comme si on avait besoin de se positionner en tant que petit être humain dans la grandeur de l'espace et la force de la nature pour se créer une identité pour après ça tomber dans des trucs beaucoup plus introspectifs et beaucoup plus individualistes. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui. Tout le monde décrit comment il se sent. C'est
rare. Le paysage intérieur.
Oui. Et donc, je pense qu'au départ, autant en peinture qu'en chanson, il y a eu ce lien. Et puis le rapport aux saisons chez nous, au Canada, est très grand. Je parlais encore avec des amis français qui sont jamais venus au Québec et puis je disais, l'hiver, oui, il fait moins 45, mais l'été, il fait 45 degrés. Donc, on passe d'un extrême à l'autre en l'espace d'une année. Et puis, chaque saison est extraordinaire pour ce qu'elle est. Maintenant, l'hiver, je vous cacherai pas que rendu en février, on en a plein le cul et on veut tuer tellement
on
peut plus.
Et puis, on est aussi dans un sujet quand même. C'est ce qui se répète, c'est les saisons.
Oui.
Et à chaque fois, tout l'enjeu, c'est qu'il y ait de la nouveauté dans la répétition.
Oui, mais il y a quelque chose de très, très beau justement dans cette répétition-là parce que c'est très éblouissant de vivre ces paysages-là changeants, d'avoir ces quatre beaux paysages aussi marqués et aussi forts à chaque année.
Et ouais, je recommande vraiment votre dernier album, L'heure mauve. On entend parfois qu'il y a peut-être une sagesse différente par saison. Mais pour ça, chers auditeurs, vous devez vous procurer L'heure mauve et écouter notamment l'hymne au printemps et l'hymne à l'automne. Merci beaucoup Pierre Lapointe, nous avez rejoint ce matin, en ce jour du 14 juillet, sous le soleil de Platon. N'oubliez pas que vous êtes au Francopholies ce soir.
Je ne l'oublierai pas ce soir.
Je vais essayer de résumer pour nous dire la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Alors justement, une philosophie comme ça, sensible, une philosophie de la répétition, mais pas de la mauvaise répétition, pas de la répétition pathologique, pas de la mort d'habitude, mais au fond du travail, de la délicatesse, cette répétition comme ça que vous chantez très bien dans moi la chanson de vous que je préfère, nos joies répétitives qui finalement est un confort, certes, mais un confort qui va autoriser une forme d'audace. Voilà, comme vous avez très bien parlé de la répétition quand on apprend un morceau, à un moment il faut être libéré du fait de penser à tout pour que quelque chose puisse jaillir, quelque chose puisse éclore, et c'est ça qui s'appelle peut-être la beauté, en tout cas aussi le jaillissement d'imprévisibles nouveautés, comme disait Bergson. J'ajouterais d'ailleurs que vous avez été très bergsonien pendant toute l'émission, quand vous dites, j'étais pas très bon dans le rationnel, dans l'apprentissage des méthodes, mais j'avais un contact comme ça. Et bien ce contact avec la chose, avec la vérité, avec la beauté, c'est exactement ce que Bergson appelait l'intuition. Pierre Lapointe, merci encore pour avoir été avec nous ce matin. Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Riveau, réalisée par Camille Maty. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique, Guillaume Roux. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, donc après le concert de Pierre Lapointe au Francofolies, à 9h précisément, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter.